Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Bienvenue pour la 8e émission consacrée aux femmes artistes, celle du passé jusqu'à nos jours. Vous pouvez constater que d'une seule émission, apparemment largement suffisante de l'avis de certains pour résumer la carrière artistique des femmes, nous en comptons déjà 8. Et même si j'ai remonté le temps du plus loin qu'il m'était possible pour porter la lumière sur elles, ma présentation reste quand même superficielle. Et je reconnais aujourd'hui, devant vous, humblement, mon impuissance pour toutes vous les présenter. Car elles dépassent en nombre et en qualité artistique tout ce que je pouvais moi-même en attendre. Alors vous avez vu que j'ai abordé pratiquement toutes les disciplines artistiques qui font intervenir des créatrices en peinture, sculpture, composition musicale et littérature. Et je n'ai pas abordé la danse, le cinéma, la bande dessinée par exemple, matière en phase avec le XXe siècle. Et arrivé aujourd'hui au 19e siècle, parce que ce n'est pas fini, et je risque encore la surchauffe devant l'ampleur de la tâche à accomplir pour essayer de vous offrir un panoramique intéressant. Aussitôt une passée qu'une autre se présente, tout aussi intéressante, avec son parcours de vie parfois insolite, ses luttes et ses combats pour exister en tant qu'artiste. Et omettre d'en parler, c'est d'une certaine manière les trahir et quelque part me trahir moi-même. Alors je me permets de mentionner les paroles d'une femme peintre du 19e siècle nommée Marie Barker-Tcheff. Elle était d'origine russe, mais, et comme beaucoup de Russes de la bonne société, elle est venue s'installer en France et elle avait écrit dans La Citoyenne, un journal de la Société du droit des femmes créé par des femmes. Alors je lis. On nous demande avec une indulgente ironie combien il y a eu de grandes artistes femmes. Et messieurs, il y en a eu, et c'est étonnant, vu les difficultés énormes qu'elles rencontrent. Et elle ajoute un peu plus loin. Non seulement on leur rend difficile les études féminines par des comportements gothiques, bon, j'imagine que ça voulait dire retardés, non seulement on les exclut de l'école d'État, mais elles ne peuvent pas accéder aux cours d'anatomie, de perspective et d'esthétique. Alors c'est vrai que c'est un peu limité pour développer des compétences artistiques, mais malgré tout, elles y arrivent. En tout cas, ce qui se passait dans ces écoles d'art d'État, les académies qui formaient peintres et sculpteurs, c'était bien la réalité, et c'était ainsi en France, mais également ailleurs. Ceci dit, la Royal Academy de Londres s'est réouverte aux jeunes filles en 1861. En France, il a fallu attendre 1897 pour que l'École des Beaux-Arts daigne accepter les femmes, et ce, grâce aux pressions de l'Union des femmes peintres et sculpteurs, fondée par une Madame Berthaud. Alors, l'accès à un enseignement académique dans les autres pays européens restait toujours difficile, et en Norvège, par exemple, il a fallu attendre 1905 pour que l'Académie s'ouvre aux femmes, et ce, grâce encore à un collectif de femmes très actif. Alors j'avais évoqué dans l'émission précédente l'après-révolution française avec ses portes qui s'étaient entrouvertes en faveur de l'éducation artistique des femmes et qui se sont plus ou moins refermées, plutôt plus que moins d'ailleurs, et celles-ci ont été renvoyées à leurs activités domestiques en conformité avec ce que la société patriarcale évidemment attendait d'elles. Ceci dit, la société était quand même en pleine mutation avec l'industrialisation, l'apparition de nouvelles classes sociales dominantes et dominées. Sans doute les bras vaillants n'étaient-ils pas de trop dans l'édification de cette nouvelle société, favorisant ainsi l'insertion de femmes dans le monde du travail, et tant de paramètres qui justifiaient des prises de conscience pour de nouvelles conquêtes sociales, ceux pour lesquels les femmes, notamment à fibre artistique, se sont mobilisées, et on le constate surtout à partir du milieu du 19e siècle. Alors comment vont-elles s'imposer et revendiquer leur statut d'artiste ? Eh bien elles vont le faire par le biais d'associations, et ce sera par exemple en France par l'intermédiaire de la Société du droit des femmes, fondée par la féministe Hubertine Auclair en 1876. Et là, elles revendiquent leur autonomie d'action et de choix. Et pour y parvenir, elles font comme les hommes. Elles se réunissent, échangent, partagent leurs ateliers et s'entraident. Bon, ce qui n'exclut pas les travers de tout humain, à savoir des jalousies ou des bruits d'intérêt, mais globalement, elles font corps. Alors, ce qui est important aussi pour elles, marque d'émancipation, c'est de posséder un lieu à soi pour travailler l'atelier. Et dans les siècles passés, l'atelier était réservé à une sorte d'élite composée de femmes artistes les plus connues. Ici, l'atelier devient véritablement preuve d'une avancée sociale pour la femme artiste. Et on va dire que toute cette effervescence a lieu plutôt et surtout dans la seconde moitié du 19e siècle. Et par rapport aux écoles d'art, que se passe-t-il pour les femmes lorsque les écoles d'art consentent à leur ouvrir les portes? Eh bien, comme le dit Marie Bakertcheff, les femmes n'ont pas droit à certaines disciplines, surtout pas de copier d'après nu, ce qui nuit lourdement à leur formation. On revient à ce que nous avons déjà évoqué avant la Révolution, où les femmes étaient surveillées et disposaient d'une liberté très limitée et contrôlée. De plus, ce qui les pénalisait et limitait leur nombre, c'était le coût des formations, puisque si la formation était gratuite pour les hommes, elle était payante pour les femmes. Comme quoi, au cours du temps, les formes changent, le fond reste. Maintenant qu'il est banal au XXIe siècle que les femmes abordent le monde du travail, à travail égal, elles touchent un salaire inférieur et on n'en sort pas. Alors certaines trouveront des stratagèmes et se payeront leurs cours en servant de modèle nu pour des hommes au sein même de ces écoles. Et c'est d'ailleurs le cas de la peintre française Suzanne Valadon qui posera pour nombre de peintres masculins connus et réputés maintenant. Alors ceci dit, en parallèle des écoles d'art d'État fermées ou limitatives, des écoles d'art indépendantes accueillent des femmes comme celle réputée qui est l'Académie Julian de Paris. Et elles pourront même y étudier le nu et être enseignées par des professeurs hommes, artistes de talent reconnus. Et d'ailleurs, certaines de ces femmes qui seront récompensées dans leur carrière reconnaîtront qu'elles doivent beaucoup à la qualité de l'enseignement dispensé par ces artistes masculins. Comme quoi, elles ne sont pas ingrates. Elles. Néanmoins, la reconnaissance de leur talent n'empêcheront pas la critique de les minimiser, ou tout au moins, si elles arrivent à se rendre assez visibles pour qu'on ne puisse les oublier, la plupart devra se sentir honorée d'être comparée à un homme. Alors, afin d'obtenir un jugement impartial, comme les écrivaines, certaines seront tentées de signer leurs œuvres avec un pseudonyme masculin. Et l'une d'elles, la peintre anglaise Laura Erfort, usera du stratagème de signer son travail avec ses initiales. Et pourtant, elle est la première femme à être acceptée à l'Academy School de Londres. Alors l'américaine Anne Whitney, qui ne prendra pas ses précautions, sera révoquée pour un premier prix au concours. Alors voilà grosso modo comment se passait la vie d'artiste des femmes peintres au XIXe siècle, comme celle des sculptrices dont nous parlerons plus tard. Elles devaient se faufiler habilement malgré les contraintes. Certaines survivaient très difficilement, c'est le cas de la Suisse Louise Brello, qui malgré son talent et ses succès parle dans sa correspondance de sacrifices et de privations constants durant de nombreuses années pour pouvoir vivre sa vie d'artiste, ce qui ne l'a pas empêchée de recevoir les médailles d'or aux expositions universelles de 1889 et 1990, de même que le titre de chevalier de la Légion d'honneur en 1901. Mais le XIXe siècle reste quand même fécond en femmes artistes, notamment les peintres qui viennent de tous horizons et de l'étranger. Et de plus, fait important, elles peuvent maintenant se déplacer en Europe sans avoir à subir le contrôle d'un chaperon. Et elles ne se gênent pas pour profiter allègrement de ce petit vent de liberté qui les pousse dans les villes d'art réputées de l'époque comme Paris, cité idéale pour une peintre ambitieuse. D'ailleurs, l'une de ses artistes, l'américaine May Alcott Nieriker, n'hésitera pas à diffuser auprès de ses comparses un petit guide intitulé « Étudier l'art à l'étranger et comment le faire à bon compte ». Alors c'est ainsi que malgré obstacles et désagréments, bien des jeunes femmes étrangères ou françaises resteront bien décidées à embrasser la carrière artistique et laisseront trace de leur passage. Mais avant de passer à la présentation de ces dames, hein, j'en ai cité déjà plus avant, j'aimerais vous faire écouter encore une compositrice du 19e siècle, puisque c'était dans mon intention de vous faire découvrir davantage de musique composée par des femmes. Bon, vous jugerez vous-même de leur talent, et rien ne vous empêche, hein, ne serait-ce que grâce à Internet, de voir également ce que les peintres femmes que je vais citer étaient capables de faire avec crayon et pinceau. Alors, je vous propose maintenant une composition de la Française Louise Farenc, née Louise Dumont. Alors, qui était-elle? Ben, déjà, c'était la fille et la sœur d'artistes, de sculpteurs Jacques Edmé et Auguste Dumont. Et pour devenir compositrice, pianiste et professeure, elle entreprend des études de piano avec différents professeurs. Alors, dans la foulée, si je puis dire, elle convole avec un flûtiste, compositeur, éditeur de musique nommé Aristide Farenc, et malgré ses succès, sa renommée et sa place de professeur hein, au Conservatoire de Paris, où elle a réussi à recevoir le même salaire que ses confrères, ce qui est exceptionnel, autant hier qu'aujourd'hui, son œuvre reste quand même méconnue et elle subit le lot habituel de la femme, l'oubli. Alors nous allons penser à elle aujourd'hui et je vous propose d'écouter une étude assez courte mais agréable. Alors revenons à nos peintres maintenant que vous avez fait connaissance avec une musicienne Louise Farenc. Alors parmi ces femmes venues de tous les horizons, ben nous rencontrons des Anglaises. L'une d'elles, Gwen John, élève à Paris, vivra une histoire d'amour avec Rodin le sculpteur. Et une autre, Henrietta Ward, ouvrira elle-même une école d'art à Londres. Alors les Irlandaises, quant à elles, comme Sarah Purser et plus tard Béatrice Elvery, se spécialiseront également dans la peinture de vitrail. Les Norvégiennes, elles, Harriet Becker, Asta Norgaard, Kitty Killand, feront pression sur l'Académie norvégienne pour y être acceptées. Et parmi les Allemandes, l'une nommée Caroline Bardua sera repérée pour ses qualités prometteuses, et notamment par le poète Goethe, qui lui fait exécuter son portrait. Et à la suite de quoi, il l'aurait mis en contact avec des personnalités importantes. Et restée célibataire, elle aurait assumé sa vie d'artiste en indépendante, voyageant au gré des demandes avec sa sœur musicienne. Et pour ma part, j'apprécie son coup de crayon. Alors l'autre, Marie-Hélène Rieder, à la fois peintre, dessinatrice et graveuse, sera la première femme admise à l'Académie de Munich. En outre, ce sera une des peintres attitrées de la cour de Bavière et sera considérée comme une artiste majeure. Alors elle a peint des portraits, mais aussi des scènes religieuses inspirées de la Renaissance, en écho avec les exigences de pureté d'un groupe de peintres romantiques allemands du début du XIXe siècle qui se sont surnommés les Nazaréens en référence à la figure du Christ. Alors, outre Méal Kotnériker, cité plus haut, auteur du guide pour artistes voyageurs, des Américaines viendront par faire leur formation à Paris. Et ce sera le cas d'Elizabeth Garner, qui héritera en plus d'un mari, puisqu'elle épousera son professeur, le peintre bien connu Bouguereau, dont vous pouvez admirer une œuvre ici à Périgueux, au Musée des Beaux-Arts. Alors, c'est un tableau assez important en taille, hein, que vous ne pouvez pas ne pas remarquer en face de vous en entrant dans la grande salle. Vous y voyez une peinture représentant des anges soulevant le corps inerte et blafard d'une jeune femme pour l'emmener au ciel qu'un père éploré aurait fait exécuter par Bouguereau après le décès de sa fille. Alors, une autre peintre américaine se nomme Mary Cassatt. C'est l'une des plus connues et peut-être même que même les messieurs qui m'ont affirmé avec une belle assurance de connaisseur que les femmes artistes dans le passé n'existaient pas, peut-être sont-ils au courant un petit peu de l'existence de Mary Cassatt, vu que le 19e siècle n'est pas si éloigné de nous. Alors Mary Cassatt venait d'un milieu aisé puisque son père était banquier, ce qui lui a permis une plus grande liberté d'action. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, déjà petite avec sa famille. Elle a résidé en France et en Allemagne, ce qui lui a permis d'apprendre les langues. Et c'est après des études à l'Académie des Beaux-Arts de Pennsylvanie aux États-Unis qu'elle est revenue en France pour suivre des cours chez les artistes. Alors dans son art qui est figuratif, elle sera influencée par les impressionnistes qu'elle fréquente et dont elle sera l'une des ambassadrices zélées aux États-Unis, si bien que des grands collectionneurs américains, devenus friands de ce type de peinture, n'hésiteront pas à acquérir des pièces de différents peintres pour compléter leur collection. Alors elle sera également influencée par les estampes japonaises, le cas pour nombre de peintres du 19e siècle, remarquable pour l'accentuation du trait, donc du dessin, avec une économie de couleurs. Et les affichistes s'en inspireront, et je pense aussi à Toulouse-Lautrec. Alors, je préfère Mary Cassatt comme coloriste, et d'ailleurs, elle est reconnue pour révéler un beau talent de coloriste. Et j'ajoute qu'elle a également été influencée par Manet. Alors, ce qu'elle peint surtout, ce sont des portraits de femmes ou des scènes d'intérieur avec des femmes et des enfants. Alors, autre femme étrangère qui marqua les esprits, surtout depuis son décès, survenu alors qu'elle n'avait que 25 ans, car elle a été fauchée en pleine jeunesse, victime, comme bien de ses contemporains, de la maladie qui sévissait à l'époque, la tuberculose. Alors, souvenez-vous de mes portraits d'écrivaines du 19e siècle, de l'émission précédant celle-ci, et de l'hécatombe que ce fut en Europe. Alors, j'ai déjà mentionné le nom de cette jeune artiste plutôt contestataire en début d'émission, puisqu'il s'agit de Marie Bascurtcheff. Alors, j'ai fait sa connaissance, si je puis dire, il y a quelques trop longues années. Je devais avoir entre 30 et 35 ans. Je déambulais, disons cela, dans le cimetière de Passy, dans le 16e arrondissement de Paris, et c'est ainsi que je tombais. Bon, c'est une drôle d'expression, dire que je tombais sur un tombeau. Mais c'est juste, attirée par le décorum, comme je l'étais d'ailleurs entre autres sculptures par la statuaire des cimetières, qui est souvent très belle et très émouvante. Alors autant dire que sa tombe est chargée, ostentatoire, et en la voyant, si l'on est quelque peu curieux, comme je le suis, on pousse l'investigation un peu plus loin. Alors, qui était Marie Bascurtcheff? Je vous l'ai présentée plus haut comme une Russe qui est venue s'installer adolescente en France, d'abord dans le Midi à Nice, puis à Paris, où pour sa formation de peintre, elle a fréquenté l'Académie Julian. Alors, elle était issue de l'aristocratie, fortunée. Elle avait reçu une éducation soignée. Outre le russe, elle parlait plusieurs langues, était douée pour les arts et notamment la peinture. Alors, c'était une jeune femme brillante, rebelle, et d'après ce que j'ai lu d'elle, elle était ambitieuse, exigeante, sûre de sa valeur, si bien que, se sachant mourante, elle a voulu à tout prix laisser son empreinte à la postérité. Et elle a réussi grâce à son journal où elle relate et consigne absolument tout ce qui constitue son existence et ses pensées. Alors elle a également échangé une correspondance dont on peut encore prendre connaissance faut voir Internet, avec l'écrivain Guy de Maupassant. Et une légende s'est forgée autour d'elle juste après son décès, entretenue par des poètes, écrivains, critiques et ses émules. Et elle a été portée au pinacle et sa légende perdure encore de nos jours. Alors j'ai envie de vous lire un passage de son journal que j'ai trouvé sur Internet. Elle est consciente d'être condamnée et elle écrit. Alors je vous le lis. Je suis à l'âge où l'on trouve de l'ivresse à mourir. Il me semble que personne n'aime tellement que moi les arts, la musique, la peinture, les livres, la société, les vêtements, le luxe, le bruit, le calme, la tristesse, la mélancolie, la tromperie, l'amour, le soleil, toutes les saisons, tous les climats, les plaines tranquilles de Russie et les montagnes qui entourent Naples, la neige en hiver, les pluies en automne, le printemps et ses folies, les jours calmes de l'été et les belles nuits étoilées. J'admire et j'aime tout. Tout se présente pour moi sous des aspects intéressants ou sublimes. Je voudrais tout voir, comprendre tout, me fondre avec tout et mourir. Et vu que c'est nécessaire, mourir dans 2 ou 30 ans, mourir dans l'extase pour éprouver ce dernier mystère, cette fin de tout ou ce divin commencement. Voilà, c'est un test un petit peu ambigu, hein, malgré l'ivresse ressentie à mourir, il révèle néanmoins un appétit de vivre. Pour moi, c'est touchant de la part d'une jeune femme si jeune destinée à mourir et qui le sait. Alors nous allons encore écouter un peu de musique. Je vous propose une sonate d'une femme compositrice du 19e siècle nommée Marie-Jaël et il s'agit de la sonate en la mineur pour violoncelle et piano. Thank you. Alors nous terminons sur cette musique romantique composée par Marie Jaël. Bon, je voulais vous parler un peu d'elle, une femme brillante également, mais je vois que le temps qui m'est imparti est fini. Bon, ce sera donc pour la prochaine fois. Nous aborderons alors la 9e émission sur les artistes femmes au cours du temps. Ce sera également la 38e émission de La Voix des Arts, émission sur l'art que vous pouvez retrouver en totalité enregistrée en podcast sur le site internet de RLP, www.radiolibreenperigord.com, radio libre au pluriel. Ceci dit, et à bientôt, et puis merci de votre écoute. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.